Vous écoutez France Culture.
Eric, là ça tourne, mais avant, avec Lionel, on n'a pas du tout parlé du générique de l'émission, parce que c'est bien beau, mais il faudra en trouver un. Moi, je sais pas, Eric, t'avais pensé à quoi? Moi, j'avais pensé qu'on pourrait faire une sorte de mixte de plein de génériques.
Ouais, c'est enfin une grande série de l'histoire ou je sais pas, un truc comme ça.
Non, mais Lionel, oui. T'en penses quoi là?
Bah, essayer de trouver un morceau de musique, voilà, qui vous plaît, puis peut-être pas forcément quelque chose de trop connu, qui soit pas un cliché, quoi. Je sais pas.
Ouais, voilà, quoi, c'est vrai qu'une série qu'on aimerait bien, une série de maintenant, ça serait pas mal.
Ouais, mais alors, pour se mettre d'accord, bonjour, quoique. On va bien trouver un épisode.
Je sais pas, Dallas.
Non, pas non, Dallas. C'est une blague. Non, un truc.
Et si on mettait Friday Night Lights?
Ah ouais. Mais alors les auditeurs connaissent pas du tout, hein, je pense.
Ouais, mais je sais pas, il y a le côté un peu découverte en même temps.
On se demandait
pendant 24
Attends,
épisodes.
On va faire le test. Lionel, tu connais Friday Night Lights?
Ouais, je crois qu'on l'a écouté hier ensemble.
Ouais.
Ouais, mais moi, je pense que si on prend ça, il faut rien mettre dessus, quoi. Juste vos voix et. Ouais. Parce que Benoît, je crois que tu voulais mettre des extraits.
Ouais, je mettais.
Des répliques mythiques.
Ouais, comme Yono, machin bidule de Urgence dessus. Ouais, ça va. C'est, sur cette belle musique, ça va être nul. Ouais.
Partons pour Friday Night Lights.
Allez, on se met ça. Benoît Lagan.
Eric Vera.
Série télé.
L'Amérique en 24 épisodes.
Ce soir, 24e et dernier épisode.
L'hyperfeuilleton, et après ?
Dans les épisodes précédents, nous vous avons parlé en particulier hier de deux séries marquantes des années 2000, Les Sopranos, votre série favorite, Eric, et puis Six Feet Under, l'une de mes séries préférées. Alors avant-hier, nous avons également essayé de faire un point sur les grandes séries policières du moment. Ce soir, pour conclure, on vous propose un dernier petit tour d'horizon des productions actuelles et nous essaierons d'évoquer à grands traits l'évolution qui attend la série télé dans son avenir, plus ou moins proche. Nous reviendrons par exemple sur l'avenir de la diffusion de la série télé, la diffusion sur le net, change la donne, comment cela peut-il évoluer dans les mois et les années qui viennent. On va essayer d'y répondre dans ce tout dernier épisode.
Avant d'évoquer maintenant, on va repartir quand même au début des années 2000, puisqu'on retrouve notre industrie télé américaine dans un drôle d'état. Les grands conglomérats, les Time Warner, les Viacom, les Disney sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils ont réduit les budgets, les fictions, ils louent la qualité de la télé-réalité, c'est moins cher effectivement, et ils laissent les chaînes câblées, qui leur appartiennent aussi, s'installer et ranger l'audience des grandes chaînes historiques qui, elles, finalement, ont beaucoup de mal à se renouveler, notamment au niveau des fictions. Alors, une remise en question va arriver un peu tard, mais elle vient quand même. Les grandes chaînes ont des moyens plus conséquents que le câble. Elles vont donc mettre le paquet pour attirer les téléspectateurs, leur donner des rendez-vous. Alors bon, vous allez me dire, c'est déjà un petit peu la définition de la série télé, le rendez-vous semaine après semaine. Mais là, il s'agit de rendez-vous immanquables, bâtis à coups de cliffhangers. C'est-à-dire, vous savez, ces fins très haletantes. Et les cliffhangers, il n'y en a même plus uniquement à la fin. Il y en a aussi à l'intérieur des épisodes, à tout bout de champ. C'est parfois exagéré et ça va donner cette télévision, ce qu'on va appeler l'hyperfeuilleton, c'est-à-dire des séries transgenres, des séries surprenantes, des séries très très rythmées. Alors c'est le règne de Lost, c'est le règne de Desperate Housewives, c'est le règne de Grey's Anatomy ou de Veronica Mars. Des séries qui donnent ces fameux rendez-vous et ça permet à la presse américaine finalement de se demander si drama is back, c'est-à-dire est-ce que le drama est de retour.
T'as vu ce que c'était?
Non. Je l'avais derrière moi, mais j'ai plongé dans les buissons.
Dites, comment vous pouvez expliquer une chose pareille?
C'est C'est vrai que Lost est passionnante à de multiples égards. Bah, il faut aussi dire que c'est un immense tour de force hein, en termes de production, c'est-à-dire la fabrication même de la série, qui se tourne d'ailleurs à Hawaï, en décor naturel. Bon, c'est un régal pour les auteurs hein, qui s'amusent avec finalement un gros jouet de 50 millions de dollars la saison. On sent le plaisir parfois, notamment quand ils retombent sur leurs pattes, hein, quand ils arrivent à créer un immense mystère et puis finalement à en trouver... le dénouement, mais bon, bien sûr, sans nous raconter la toute fin. L'apparition de Lost, c'est le symbole de la réponse des grands networks face à la concurrence des séries produites pour le câble. Mais c'est aussi, finalement, c'est aussi une réponse à la télé-réalité, hein, qui est maintenant, on va dire, un genre vraiment établi à la télévision américaine.
C'est un peu un Survivor fictionnel, quoi.
Bah, d'une certaine manière, c'est aussi une mise au point, finalement, de la démocratisation du jeu vidéo, parce que c'est vrai que Lost doit beaucoup au jeu vidéo. Et d'ailleurs, il y a un jeu vidéo qui est sorti et qui s'inspire de la série, qui est vraiment très très réussi. Bon, moi, je suis pas un grand joueur de jeux vidéo, mais j'ai des connexions dans le milieu et les gens qui aiment Lost adorent le jeu vidéo. Et c'est vrai que bon, bah cette industrie, on n'en a pas beaucoup parlé hein, de ce jeu vidéo. Il arrive en 70 quand Pong. Vous savez, le petit jeu avec la petite balle qui se balade là, bon, ça fait rire tout le monde. Mmh. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, bah, elle pèse plus lourd que l'industrie du cinéma. Et c'est vrai que toutes ces séries hyper feuilletonnantes, elles ont quelque chose à voir dans l'hypertextualité. Tous ces personnages qui sont reliés, ça fait vraiment penser à ces nouveaux moyens de communication. Et bon, voilà. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi de ça. C'est une réponse par rapport à ça, pour les jeunes, par exemple.
What if everything that happened for a reason?
Stranded. At the edge of the world.
Where are we?
We crashed 1,000 miles off course. They're looking for us in the wrong place.
Brought together by fate.
Do you think we're being punished?
We need to get off this island.
Somebody help!
Is it just coincidence?
Do you really think all this is an accident?
Or is it destiny?
We were brought here for a reason, all of us.
That's the way!
Lost. The new season premieres Wednesday, September 21st, 9/8 Central, only on ABC.
Alors, selon le bon vieux principe de l'imitation industrielle des succès, bah, bien sûr, l'hyperfeuilleton, ça va être le nouvel Eldorado. Hein. Mm. Tous les studios se voient avec des séries hyperfeuilletonnantes partout. Alors, bah, ça va donner quoi? Ça va donner Daybreak, par exemple, qui est une série qui va pas marcher, hein, bien sûr. On va parler finalement que de séries qui n'ont pas marché. Donc Daybreak, c'est un flic qui recommence tous les matins le même réveil et puis qui change sa journée. Mais il y a un moment, ça s'arrête, il recommence le
c'est
matin.
C'est un jour sans fin. Quoi.
C'est une sorte de jour sans fin un peu musclé. Vous avez The Nine, qui est une série qui se passe sur 52 heures. C'est un braquage, mais on voit le début, on voit la fin, on sait pas ce qu'il y a au milieu. Puis on commence à vous raconter des choses qui... Donc voilà, toutes ces séries, d'ailleurs, se sont plantées. Pourquoi? Parce que les stratèges, finalement, des grandes chaînes américaines ont pas vu quelque chose. C'est que ces séries-là, elles sont gourmandes. En attention, et on s'aperçoit en fait qu'un téléspectateur lambda peut pas suivre 10 séries comme ça dans sa semaine, autrement il pose son cerveau, il devient fou. Donc c'est vrai que il y a eu des limites à tout ça. Alors il y avait la place pour quelques séries, pas pour des dizaines et des dizaines de séries comme ça.
Alors parmi ces séries, par exemple, il y a Prison Break, La Grande Évasion, puis les courses-poursuites de deux frères, alors victimes d'une machination politique. C'est une série qui, comme les autres, aurait dû s'arrêter avant de partir dans de curieuses directions. C'est la dure loi hein, de ces séries trop feuilletonnantes. À vouloir trop en faire, bah, les scénaristes s'y perdent, et puis nous, les téléspectateurs, aussi.
Papier du véhicule, s'il vous plaît.
Si, c'est à moi.
Madame, savez-vous pourquoi je vous arrête?
J'ai ma petite idée.
Vos enfants faisaient des bonds à l'arrière du véhicule au lieu d'être assis et bien attachés.
Je sais, je les ai grondés, mais ils ne m'écoutent jamais. C'est très frustrant.
Il faut que vous les fassiez obéir, vos enfants. Après tout, c'est votre travail.
Il avait beau être policier depuis 6 ans, jamais l'officier Hayes ne s'était retrouvé dans une situation aussi dangereuse. Remarquez, c'était la première fois qu'il donnait des leçons à une mère de famille.
Alors, je suis une mauvaise mère?
Madame, remontez dans votre voiture.
Je fais tout, toute seule, moi, figurez-vous. Mon mari est toujours en déplacement.
Je vous demande de reculer maintenant.
Ma babysitter vient d'intégrer le programme de protection des témoins. J'ai pas fait une nuit complète depuis
Madame...
6 ans. Et vous, là, vous ramenez et vous osez me juger?
Très sincèrement, moi j'étais. Je fais partie des gens qui ont été déçus par Desperate Housewives et Lost.
Séverine Barthes, universitaire.
J'étais assez pessimiste sur l'avenir, enfin l'avenir, les prochaines années des séries télévisées, jusqu'à Californication et Damages. Alors effectivement, les séries du type 24, Lost, Desperate Housewives, on est dans une construction avec un défi, que le défi ça soit sauver le monde ou un mystère à éclaircir ou des choses pas très nettes qui se passent et qu'on voudrait comprendre, construit de manière très addictive, de façon à donner un tout petit peu d'informations pour que les gens reviennent, et donc en France, puisqu'on l'a en décalé, consomment à la suite. Et effectivement, on perdait quelque chose. Enfin, il y avait ce risque d'indigestion qui était vraiment là. Et puis, Damages qui construit, enfin, qui est sur la même chose. On a un mystère à éclaircir. Et en fait, la construction, la façon dont la série est construite, avec ses flashbacks, forward, ses manipulations temporelles, on ne sait pas toujours très bien dans quel temps on est, les points de vue, et où le téléspectateur a un vrai rôle décrypteur. Enfin, il est vraiment déchiffreur, lecteur au sens mais premier du terme. Il est celui qui doit comprendre, qui doit reconstituer le puzzle, et donc une part beaucoup plus active que dans Lost, où, j'ai regardé la première saison, comme tout le monde, je me suis prise au piège, j'étais prise au piège de la série, je me demandais c'est quoi, quel est l'ours blanc, à faire les théories les plus folles sur de prétendus pouvoirs de Walt qui pourraient se faire matérialiser ce qui se voit, enfin, toutes les théories qui ont été créé pour essayer de comprendre et qui quelque part ça tombait à l'eau parce que la série elle prenait d'autres directions. Il faut vraiment durer et là on est vraiment dans le soap, dans le mauvais sens du terme je trouve, c'est-à-dire on est dans le délitement, on est dans le truc qui s'éternise, alors que Damages on a une histoire close avec bien sûr une ouverture, des petits rebondissements à la fin pour avoir la possibilité d'une deuxième saison, mais à la limite, ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait être un très long film de cinéma qui s'arrête là et où je trouve que voilà, c'est la virtuosité de la construction.
La rigueur aussi.
Et la rigueur.
Plus sérieux, plus rigoureux.
Il y a plus de rigueur, mais il y a aussi une sorte. Enfin, il y a aussi un côté un peu virtuose, je trouve, dans cette manipulation. Permet de recadrer, de refaire quelque chose qui me semble d'extrême qualité et qui contient beaucoup de promesses.
Change la donne aujourd'hui aussi, c'est que dans certains cas, on regarde la télévision et les séries d'une nouvelle façon. Les aficionados, par exemple, aiment bien télécharger les épisodes au compte-gouttes, au rythme des diffusions américaines, certes, mais ils sont pas si nombreux que ça. D'autres préfèrent attendre d'avoir l'ensemble d'une saison disponible en DVD pour s'organiser de véritables orgies de séries télé. Alors, voir, Eric, la série 24 en 24 heures chrono. C'est par essence, alors je suis peut-être un petit peu vieux jeu, mais pour moi c'est vraiment de l'anti-télé, quoi. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle façon de suivre ces séries, à part le téléchargement légal, puis parfois illégal, ou à partir des DVD, ça pousse forcément les créateurs à s'adapter à ces nouveaux modes de consommation. Alors, est-ce que cela va changer la donne? Comment, en 100 ans, la série est passée du cinéma à la télé ou de la radio à la télé? Eh bien, les séries télé vont-elles passer de la télé à Internet? C'est difficile de le dire pour l'instant. Thomas Schmidt, universitaire et producteur, nous livre sa vision des choses.
Effectivement, la télévision repose sur la programmation. Et donc, programmation, ça veut dire, évidemment, organiser de manière le temps en fonction des programmes, de ce que font les gens chez eux, etc., etc. Et donc, créer le programmateur, c'est créer des habitudes d'écoute. Bon. Évidemment, avec Internet, la vidéo demande, cette télévision de rattrapage, ça éclate un peu. Mais est-ce que ça n'a pas déjà éclaté avec le fait de pouvoir effectivement downloader des émissions, des saisons entières, etc., etc. D'où peut-être l'importance que les choix, enfin que les séries soient presque encore plus différentes, encore plus particulières, encore plus marquées, la marque, marquée par leur éditeur télévisuel. J'ai l'impression que par rapport à une série, il faut qu'il y ait une vitrine. encore, en tout cas, il faut qu'il y ait une vitrine télé pour que cette série puisse se décliner après sur les autres supports. Et puis, on retrouve, par rapport à l'évolution d'Internet, sur Internet, on retrouve en gros tous les acteurs majeurs de l'audiovisuel. Alors, on en retrouve d'autres, enfin, on trouve des gens du télé, évidemment des télécoms, etc., Microsoft, machin, la convergence. Mais on retrouve les mêmes acteurs qui sont dans le secteur de la télévision, on les retrouve par des programmes déclinés sur tous les autres supports. Est-ce qu'on peut imaginer une consommation de séries télé directement sur le web sans que la série soit d'abord produite pour la télé? Alors je sais qu'il y a quelques web-séries qui commencent à exister, mais je pense qu'on est encore dans des choses très marginales. À mon avis, on est encore dans la marge pendant au moins 5 à 10 ans sur cette histoire-là. Et même si, effectivement, on peut imaginer qu'une télévision soit d'abord faite pour une web TV ou un site internet, en fait, cette web TV et ce site internet vont devenir la grande vitrine. On a besoin d'éditorialiser toujours un peu les choses pour que les gens rencontrent un produit culturel. On a besoin de les amener à cheminer, à le trouver, à le rencontrer. Donc il y a besoin d'un intermédiaire pour dire vous devriez plutôt voir tel programme ou tel autre, vous venez chez moi plutôt que chez nous. Alors peut-être que le site internet deviendra quasiment le média premium, la grande vitrine, mais ce sera à peu près l'équivalent.
My name is Dylan Krieger. My name. My name is Dylan Krieger. My name is Dylan Krieger. Okay, what does that say? To say something, I would have to reveal something. God forbid I do that. What is a blog? Why do we blog? We blog to exist. Therefore, we are idiots. Blog.
Je ne crois pas à la disparition des networks ou des grandes chaînes, même des grandes chaînes payantes, je dirais en diffusion télé, parce que effectivement, je crois que cette idée de partager quelque chose en commun, ça me paraît tout à fait important, et ça, je pense que ça le reste. Je pense qu'il y aura à la fois l'hyper-choix et puis ces grandes vitrines. Voilà. Mais même, par exemple, si on prend le cas de la musique, on se rend bien compte que ce qui reprend effectivement de la valeur, c'est la participation des concerts. C'est-à-dire les concerts, c'est une économie qui marche plutôt bien. Et donc le concert, c'est par essence ce moment de partage, je dirais de manière concrète, incarnée, d'un temps musical. Et puis à côté de ça, il y a l'hyper-choix sur Internet, d'aller chercher telle chanson de tel CD, etc., etc. Donc effectivement, je crois qu'il y a à la fois ce moment besoin de rassemblement et en même temps d'hyper-choix. C'est-à-dire, on est dans un temps d'hyper-individualisation de la consommation et en même temps de temps de partage important. Donc les grandes séries de telle et telle saison, etc., il y aura de toute façon de la communication dessus pour amener à ce partage-là. Donc moi, je crois que la disparition de la télévision n'est pas pour demain. Il y aura diminution, sans doute encore, des audiences sur les grandes chaînes, mais il y aura concomitance des types de consommation.
Alors, il est clair que Hollywood se pose des questions vis-à-vis des mutations du marché de la télé. Cette industrie, elle a des défauts, mais elle possède une capacité de remise en cause assez épatante. Et finalement, la grève de 2007-2008, elle a été un révélateur par rapport aux limites du système actuel. Hein. On voit bien qu'il apparaît un autre moyen finalement de produire des séries, c'est sur le web. Alors, on en est qu'au balbutiement, mais on a vu récemment Quarter Life, par exemple, hein, nouvelle série de Zvi Kerkovits, qui sont en plus de très grands créateurs hollywoodiens. C'est sûr, c'est pas deux mecs qui font ça dans leur garage, c'est vraiment des grands auteurs de l'industrie. Et bah, ces gens-là, ils sont mis finalement à faire des séries sur le net plus libres, d'après eux. Alors, c'est la recherche maintenant d'un business model hein, qui va être intéressante, parce que créer des séries pour créer des séries, c'est bien beau, mais encore une fois, on est dans une industrie qui rapporte de l'argent. Donc, sans moyens, c'est vrai qu'on voit finalement des fictions qui retournent vers l'écriture pure. Hein, et d'une certaine manière, Hollywood, elle a besoin de ça aussi. On peut pas faire que des Heroes et des Lost. Il faut aussi faire des séries beaucoup plus humaines. Et donc, Quarter Life, elle est un petit peu la partie visible de l'iceberg, parce qu'il y a des centaines de séries qui se font sur le web, des séries artisanales, mais qui peu à peu vont monter en puissance. Et puis, on va voir apparaître, je pense, dans les années qui viennent, des choses vraiment dédiées totalement à l'Internet.
Si on accepte Urgence, toujours en cours de production, pour ma part, il m'est assez difficile de dire quelle est la série qui, aujourd'hui, me touche plus particulièrement. Parce que je trouve que les séries actuelles m'accompagnent moins qu'auparavant. L'hyperfeuilleton joue sans doute beaucoup là-dessus. L'identification fonctionne, je trouve, personnellement, un petit peu moins bien. Alors, heureusement, certaines séries sont encore diffusées à un rythme plus lent, de manière plus classique. Pour moi, il y a une série historique et intemporelle, non feuilletonnante, qui est une des véritables surprises de ces dernières années. C'est bien la série Cold Case, car le rythme nous permet de la suivre tranquillement avec le temps qui passe. Canal+, comme France 2 en France, je trouve, ont proposé une programmation intelligente avec un épisode inédit par semaine, au moins dans un premier temps, ce qui permet de la suivre normalement. Alors, de plus, elle ne peut pas être, cette série Cold Case, pour l'instant éditée en DVD, pour des raisons de négociation de droits musicaux. La musique est omniprésente dans la série. Donc, finalement, on n'a que la télé pour la voir. Et puis, à vrai dire, on ne va pas la télécharger, parce qu'elle n'est pas hyper feuilletonnante. Donc, on peut attendre que l'épisode de Cold Case arrive sur France 2 ou sur Canal+. Donc ça, c'est je trouve, assez intéressant. Alors, au-delà de la façon de la voir, Cold Case, il faut rappeler peut-être un petit peu ce que c'est une série qui raconte l'histoire d'une équipe de flics de Philadelphie, autour de la touchante Lily Rush, qui enquête sur des dossiers classés sans suite. Elle ressort des dossiers froids de 3, 10, 15, voire 40 ans après, ce qui permet au scénariste de dépeindre une époque ou de raconter à travers l'enquête criminelle un petit bout de l'histoire de l'Amérique. En gros, grâce à cette série fort bien habillée musicalement, on retrouve un petit peu de l'émotion qui fait parfois un petit peu défaut dans les autres séries du moment.
Donc Benoît, vous parlez de Cold Case. Moi, j'aimerais bien parler des comédies, parce que là, vous omettez un petit peu les comédies, parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où la comédie revient à la mode. Alors, on avait assisté à la lente hibernation du genre, début 2000, avec grosso modo l'arrêt de la doublette Friends-Seinfeld. Et puis, il y a eu la belle surprise Arrested Development. Vous êtes un fan, vous avez les DVD chez vous. The Office. Et puis, aujourd'hui, on retrouve un ensemble d'œuvres. Alors, on va en parler, c'est How I Met Your Mother, c'est 30 Rock, c'est The Big Bang Theory, c'est Samantha Who. Alors, elles ont toutes cette caractéristique. C'est pas que des comédies, je veux dire, avec des gags et qui s'enchaînent. Je veux dire, c'est des séries assez souvent malignes, qui sont pas dans un récit linéaire. C'est-à-dire que dans 30 Rock, par exemple, on sent, il y a la critique c'est dans les coulisses d'une comédie américaine. Donc, bien sûr, la série est censée se passer dans les locaux même de NBC, chaîne américaine, et on tape sur l'entertainment, sur les directeurs de chaîne et tout ça. Mais là-dessous, on sent poindre aussi, il y a des histoires d'amour, il y a beaucoup de sentiments. Et c'est vrai que toutes ces séries, elles ne se contentent pas d'un récit linéaire. On voit beaucoup de flashbacks, de flash-forward, de petites trouvailles visuelles qui font que, à l'heure actuelle, toutes ces comédies, elles sont vraiment pétillantes et c'est vraiment très intéressant à regarder.
Le four GE Trivection cuit parfaitement la nourriture 5 fois plus vite qu'un four conventionnel parce qu'il utilise 3 sortes de chaleur. Technologie thermale pour une température constante, technologie de convection GE-R précis pour une circulation d'air optimale et enfin technologie micro-ondes pour cuisson ultra rapide. Avec ces 3 sortes de chaleur, vous faites cuire une dinde en 22 minutes.
Waouh, ça alors c'est impressionnant.
C'est bien ce que pensent les gens d'en haut. C'est pour ça qu'ils m'ont promu et qu'ils m'ont envoyé ici pour remanier votre émission.
Remanier quoi, dites-vous?
Je suis le nouveau vice-président de Côte-Est Télévision et programme de fours à micro-ondes.
Alors vous allez programmer des fours à micro-ondes?
Vous me plaisez.
N'oublions pas, Eric, la série que vous m'avez fait découvrir. Vous avez justement, là, je vois le t-shirt. Allez, décrivez-le nous.
Je vous l'offrirai, le t-shirt. C'est le t-shirt des Panthers de Dylan. C'est l'équipe de football de la série Friday Night Lights. la série dont le générique est aussi le générique de notre série à nous. Bah oui, enfin pour moi, je trouve que c'est l'archétype, c'est le modèle de la bonne série d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire déjà l'équilibre entre le fond, la forme. C'est une très très belle série, très très bien réalisée. Bon, en tout cas, les premiers épisodes sont vraiment un modèle. Peter Berg avait déjà réalisé le film, hein, tiré d'un roman à succès, qui raconte l'histoire, toujours cette histoire d'une équipe de foot, d'une petite ville du Texas un peu paumée. Peter Berg, dans les premières images de la série, tout de suite, il impose un ton poétique. Et en même temps, ça décrit extrêmement bien l'Amérique de Bush, hein, donc il y a un sous-texte très riche. Chaque scène a son petit symbole. C'est rien, vous savez, c'est des petits gestes, on les voit prier, on voit l'importance de Dieu dans cette Amérique profonde. Et puis, bah surtout, vous avez une vraie progression. Je veux dire, du début à la fin, il y a le personnage de l'entraîneur, hein, interprété par Kyle Chandler, qui est exceptionnel dans cette série. Et c'est vrai qu'on est là, moi je dirais, dans quelque chose de littéraire, d'initiatique. C'est quasiment un documentaire, mais vous voyez, un peu poétique, qui mélangerait. Et pour moi, c'est la bonne définition de la télévision moderne et actuelle.
Good morning, West Texas. Slam and Sammy Mead coming at you with Panther Football Radio. 470 AM on your dial.
Oui, cette série, il ne faut pas s'y tromper, hein, c'est loin d'être une série sportive pour ados boutonneux. Alors, Friday Night Lights est en fait une très belle et sensible chronique de l'Amérique, vous lisiez. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que non seulement on retrouve, quand on regarde cette série, un petit peu ce que l'on peut lire quand on lit Russell Banks, par exemple, cette Amérique, effectivement, l'Amérique des bungalows.
Et beaucoup de tristesse dans cette série. Ouais.
Et puis, c'est une série qui est quand même diffusée au moment où la guerre sévit, entre guillemets, c'est-à-dire que l'Amérique est en guerre en Irak, et il y a pour moi une sorte de métaphore dans cette équipe de football de Dillon. Pour moi, elle me fait penser à une troupe de soldats. Le meilleur exemple est celui de Jason Street, grand quarterback que toute la ville adore, et qui se retrouve après une bataille, un match difficile sur chaise roulante. Alors la ville entière doit apprendre ainsi, entre guillemets, hein, il meurt pas, mais à faire son deuil et espérer que notre soldat, notre joueur, reprenne le flambeau pour défendre les couleurs de son pays, enfin de sa ville, Dillon.
Okay, Grandma, I made you two tuna fish sandwiches and I put your medicine in the green Gatorade, okay?
A green Gatorade, but I only want one sandwich.
Well, then just eat one.
Well, but you made two and I just want one.
No. I'll eat the other one when I get home from practice, okay?
You'll be hungry after that good old practice.
Yeah.
You, I adore.
Alors, Eric, pour conclure, que vont devenir les naufragés de Lost ? Vous en savez quelque chose, vous ?
Allez savoir.
Et quelle forme va prendre la vengeance de Michael Scofield dans Prison Break ?
Vous voulez me piéger
Non, parce qu'en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, on va le découvrir la saison prochaine.
C'est ça qui est beau, en fait, dans la télévision. C'est quand vous commencez à mettre un peu le nez dedans, en fait, vous avez des questions et vous voulez des réponses, quoi. Et voilà, et le jeu est parti, parce que moi, je pense aussi, effectivement, à nos Panthers de Dillon, je pense à Gregory House, hein, qui est mon Dr House, qui est... Et Liz Lemon dans 30 Rock aussi, on se demande un petit peu ce qui va lui arriver, est-ce qu'elle va trouver l'âme sœur finalement. Donc, vous voyez, bon, voilà, ça pour moi c'est la télévision.
Bon, alors pour notre part, notre saison s'achève. Alors merci de nous avoir suivis pendant ces 24 épisodes. N'hésitez pas quand même à suivre tous les mois l'actualité des séries dans la revue Générique, le magazine de la culture série, qui consacre par exemple dans son dernier numéro, celui de juillet-août, un article entier sur Lost. Et puis vous pouvez encore parcourir quelques temps notre page internet sur franceculture.com. C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes.
Mixage Pierre Monteil.
Réalisation Lionel Quentin.
Une émission de Benoît Lagan et Eric Vera.
Bon, c'est fini Eric ?
Ouais, on n'a même pas parlé de Véronica Mars.
Ça vous dit qu'on prenne un café là ?
Ouais, on pourrait aller en parler.
Mais elle va devenir quoi, Véronica Mars ?
À la fin, elle voulait être agent du FBI, après elle arrête la série, elle
ouais.
s'en va.
Ouais. Bon, ben c'est... Ouais, je croyais qu'il va en faire des If ever again, a greeting I send to you, short and sweet to the soul I intend. Bonne nuit. Il est 23h sur France Culture. Retrouvez dans un instant Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes annonces.